Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
La date du 14 mai 1610 est restée dans les mémoires, c'est celle de la mort d'Henri IV, de l'assassinat du roi qui a semé complètement la désolation. Imaginez au Louvre l'émoi de Marie de Médicis, la reine florentine qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, on l'entend ressasser, le roi est mort, le roi est mort. Et évidemment, ça n'est pas ce qu'il faudrait dire dans une circonstance comme celle-là, et le chancelier Brûlart de Sillery, expérimenté chancelier de France, s'empresse de contredire la reine. « Les rois ne meurent pas en France, madame !» Et il ajoute en montrant le petit dauphin qui a 8 ans, à peine 9. « Voilà le roi vivant !» Belle réplique, monsieur le chancelier, mais est-elle vraie ? Louis XIII, à l'époque, n'est encore qu'un enfant brun mal dégrossi et, disons-le, il n'a pas du tout les épaules d'un souverain. 4 années le séparent de la majorité légale et de nombreuses années le séparent de la maturité biologique. En attendant, sa mère s'impose comme régente et comme à l'accoutumée en période de régence, c'est le moment où les agents étrangers, les princes rivaux, tous les ambitieux possibles vont essayer d'imposer leurs revendications, certains même par l'intimidation. Les contestations se nourrissent aussi d'un scandale. Et ce scandale, c'est l'ascension d'un couple assez extraordinaire, celui que forment Concino Concini et Leonora Dori, qu'on appelle la Galigaille. Ce sont les favoris de la reine Marie et ils ne cessent d'accumuler sur leur nom toutes les gratifications possibles. Lui devient marquis d'Ancre, il obtient entre autres en 1613 un bâton de maréchal de France, vous imaginez ça ? Et disons-le, c'est en tout cas ce que disent ses ennemis, ce bâton, il l'a plus acquis en vautour qu'en aigle. L'opposition gronde, Marie de Médicis, même si elle n'apprécie guère Concini, est pour une grande part dans son emprise par l'intermédiaire de sa femme, donc, hein, et la femme en question, la Galigaille, s'est faite la propriétaire de l'esprit de la reine-mère qui est en même temps la régence. 1614, ça y est, Louis XIII devient majeur, on fait des cérémonies, bien entendu, on le sacre à Reims, mais ni sa mère, ni Concini ne se pressent pour le frotter à la grande politique. Et il faut dire qu'à l'heure des charges, Louis XIII a de quoi dérouter. C'est vrai que d'un côté, ce jeune homme est enthousiaste, il peut se montrer investi dans certaines affaires, il est assez astucieux par moments, mais il est aussi rude, il est difficile à comprendre, il est d'un tempérament jaloux et irascible. Louis XIII possède, c'est vrai, une certaine noblesse, mais il est encombré d'une forme de nervosité qui se greffe à une nature souffreteuse. Bref, puis disons-le, c'est pas un très joli garçon. La puberté n'a pas été très généreuse avec lui. Il ne sait pas bien parler. Il a un gros problème de prononciation. Très souvent, les syllabes restent dans sa gorge. Bref, tout ça fait que la reine et ses favoris peuvent se montrer à son égard extrêmement peu amènes. C'est vrai aussi que Marie de Médicis n'a pas eu le rôle d'une mère à son égard. Elle n'a jamais été aimante. Comme le dit Pierre-Louis Lancel, j'aime bien cette expression, il dit « Elle montre la raideur des natures craintives et le dédain outré des médiocres trop haut placés ». C'est exactement ça. Peut-être qu'elle n'a pas non plus, elle, l'étoffe de sa position, Marie de Médicis. En 1614-1615, alors que de sérieuses révoltes princières et une réunion des états généraux qui s'annoncent difficiles soulignent la crise du royaume, le rôle de Louis XIII est un rôle très secondaire, il faut bien le dire. Il faut vous dire qu'à 14 ans, on vient de le marier à une infante espagnole assez séduisante, qui a moins d'une semaine de différence avec lui. Elle s'appelle Anne d'Autriche. C'est une union qui, normalement, devrait être extraordinaire, mais c'est une union mal assortie et qui va ne faire que enfoncer Louis XIII dans tous ses malheurs.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et puis, disons-le, Concini n'est pas d'un naturel respectueux. La cour observe les attitudes déplacées qu'il manifeste envers le roi. À la fin de 1616, il y a une scène qui va marquer un point de non-retour dans les relations avec le jeune Louis XIII. Alors que le souverain se trouve au Louvre, dans les grands décors du Louvre, voilà que Concini fait irruption avec toute sa compagnie habituelle, pour pas dire sa camarilla. L'étiquette exigerait évidemment qu'il se montre déférent à la seule vue de son maître, seulement non. L'orgueilleux fait comme si le roi n'était pas là, et pire que ça, il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre que c'est à ce moment que le jeune garçon résolut de se débarrasser du parvenu florentin, dit Jean-Christian Petit-Fils. En effet, voilà que Concini s'assied sur le fauteuil qui devrait être normalement le fauteuil du roi. Cette décision de coup d'état, ajoute Jean-Christian Petit-Fils, soyons-en persuadés, ne vint que de lui et de lui seul. Le roi, cependant, manque un peu d'assises pour aller au bout de sa vengeance. Il sait qui il est, il ne supporte plus Concini, mais qui pourrait l'aider à l'en débarrasser ? Parmi ceux qui sont autour de lui, comme le souligne Michel Carmona, qui est le biographe de Marie de Médicis notamment, un aristocrate presque quadragénaire, qui porte beau, qui sait se montrer rassurant avec le jeune roi, paternel même peut-être, il s'appelle Charles d'Albert de Luynes. Quelques années plus tôt, cet homme aux splendides moustaches effilées s'est vu confier une partie des oiseaux du roi et depuis sa volière, il a su déployer ses ailes, si je puis dire, pour devenir en quelque sorte l'ange gardien du jeune souverain. Un lien se tisse qui est peut-être assez ambigu d'ailleurs. Le roi entretiendra pendant tout le cours de sa vie une sorte de proximité avec des hommes beaux qu'il aime, qu'il tient dans son intimité. Disons-le, Luynes a l'avantage de l'âge, sans doute, il a l'avantage de l'ascendant. Bref, il va finir par se tailler auprès du roi Louis XIII une place tout à fait essentielle, et c'est cette place qui va lui permettre d'agir. Le concert des nations sous l'archet de Jordi Savall interprétait ses musiques pour le sacre de Louis XIII de Philidor l'Aîné.
Vous écoutez Radio Classique.
On essaie de prévenir la reine Marie de Médicis, on essaie de lui montrer que le roi ne supporte plus son entourage. Dans l'aparté de ce qu'on appelle les conférences de Louis XIII, c'est-à-dire les petites réunions qu'il entretient avec ses intimes autour justement de Monsieur de Luynes, on s'est rendu à l'évidence, il faut mettre le maréchal aux arrêts. Ce maréchal d'encre, hein, ce Concini est de plus en plus agressif, de plus en plus impudent, il faut se décider à agir et on va établir un scénario. Quand ce scénario est précisé au capitaine des gardes du corps, qui s'appelle Vitry, en cas de difficulté, Vitry comprend que l'arrestation du maréchal pourrait aller jusqu'à une mise à mort. Il se retourne vers Louis XIII, il demande si c'est bien ce que veut le roi, et, en tout cas, on ne contrevient pas aux décisions. Bien sûr, c'est simplement une hypothèse, hein. Il n'est pas question a priori de tuer Concini, mais s'il fallait le tuer, eh bien, ma foi, le roi n'a pas dit le contraire. Et voilà qu'arrive enfin cet événement qui devait conclure la jeunesse de Louis XIII. Nous sommes le 24 avril 1617. Alors que la silhouette de Concini, suivie de toute une nuée d'oiseaux de cour, se dessine à proximité du pont-levis du Louvre, le scénario des conjurés s'emballe. Je cite Guichard d'Agen. Voici ce qu'il nous dit. « Monsieur de Vitry partit accompagné de quelques-uns de ses proches, de quelques autres gentilshommes et archers de la garde du corps de Sa Majesté pour se saisir de la personne du maréchal. Comme il l'eut jointe à l'entrée du pont dormant, c'est un ancien pont-levis qui est devenu pont dormant, c'est-à-dire c'est une passerelle pour entrer dans le vieux Louvre, hein. Comme il l'enjointe à l'entrée du pont dormant, il lui dit « Je vous arrête de par le roi ». La scène devient confuse à ce moment-là. Concini s'arrête. « Ah mais, dit-il, moi, c'est à moi que vous parlez ?» En tout cas, les gardes agissent comme si Concini allait se défendre. D'un seul coup, on entend des coups de feu et plusieurs tirs vont toucher Concini. L'un dans la tête, nous dit Guichard d'Agen, l'autre entre les yeux, l'autre dans le gosier, le troisième à la joue, sur l'oreille droite. Bref. Le maréchal n'est plus qu'un cadavre, promis aux pires sévices des Parisiens. Quant à la galigaille, elle va être arrêtée et elle finira un peu plus tard par présenter son coup à l'épée du bourreau. Mais avant cette double sortie de l'histoire, laissons à Louis XIII, qui est resté dans le Louvre pendant cette arrestation, qui était dans sa salle de billard, laissons-lui le mot de la fin, si je puis dire. Il y a tout un vacarme, bien entendu, évidemment, vous doutez bien que la mort du maréchal d'Ancre ne s'est pas faite sans semer un peu de trouble. Et l'on voit le petit souverain qui est là sur le rebord de la fenêtre du salon où il attendait l'issue des opérations. On a l'impression que d'un seul coup, il est devenu plus grand, qu'il est devenu plus fier, et avec une sorte de remerciement qui s'adresse au badaud accouru en contrebas, il dit « À cette heure, enfin, je suis roi !» Voilà le grand bouleversement qui, ne va pas pour autant changer totalement la position du roi. Et c'est ça qu'il faut dire, il y a toujours chez lui cette espèce de fragilité distante qui le rend assez inapte aux plus hautes responsabilités. Il a 15 ans, il vient de démontrer l'appréciation aigre qu'il a de son rang suprême, son souci de justice, son don pour le secret aussi, disons-le, et puis cette résolution tenace que l'on verra se manifester un certain nombre de fois dans la suite du règne. Après la chute de Concini, Marie de Médicis est contrainte d'aller enrager à Blois. Lui apparaît comme la figure puissante du pouvoir, ou plus exactement comme la figure du pouvoir lui-même. Parce qu'au-delà de ses apparences séduisantes, le favori est épaulé par d'autres et il va agir sous le sceptre du roi, qui est peut-être plus solide ce sceptre qu'il n'y paraît. Le favori manque sans doute d'épaisseur, les principes ne l'étouffent pas par ailleurs, hein, disons-le. Ça va poser bien sûr un certain nombre de questions à l'heure des décisions sérieuses qu'il faut prendre. On est en pleine guerre de 30 ans, une guerre qui agite complètement tout le centre de l'Europe. Et pour ne rien ajouter, début 1619, Marie de Médicis parvient, après toute une fuite assez invraisemblable depuis le château de Blois, elle s'est enfuie comme une prisonnière, hein. Marie se soustrait au contrôle royal et ça, c'est la promesse de nouveaux désordres dans le royaume, qui d'ailleurs ne vont pas tarder sous la forme d'une prise d'armes. C'est ici qu'il faut que je vous présente un homme d'une toute autre trempe que Luynes, un évêque de Luçon, il a une trentaine d'années, il s'appelle Armand Jean Duplessis de Richelieu, un prélat au regard perçant, à l'entendement extrêmement supérieur, qui a été promu dès la régence par Marie de Médicis. Elle en a fait son proche collaborateur, elle l'a mandaté après quelques problèmes et quelques disgrâces. Il va contribuer à renouer le lien tellement abîmé entre celle qui est pour le moment sa maîtresse et le jeune souverain. Les retrouvailles sont arrangées à Couzières, on est au sud de Tours, en septembre 1619. C'est de nouveau Michel Carmona qui raconte. La rencontre a lieu dans une grande allée bordée d'arbres. Chaque branche est garnie de curieux. Parvenu en présence de son fils, Marie de Médicis l'embrasse trois fois, une fois sur la bouche, deux fois sur les joues. En fait, cette paix familiale ne va être que temporaire. Un autre conflit armé va éclater l'année suivante entre les troupes royales et celles réunies par la reine-mère et ses nombreux alliés, qui seront battus. Et de nouveau, au terme d'un jeu périlleux auprès de Marie de Médicis, Richelieu est à la manœuvre. Il va travailler à l'entente mère-fils, sans oublier ses propres intérêts, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a d'étonnant avec Richelieu, comme avec un grand nombre de ministres étonnants de l'histoire de France, c'est que ses propres intérêts coïncident avec ceux du royaume. Cette Allemande s'appelle La Mignonne. Elle est signée Jacques Champion de Chambonnière et au clavecin, c'était Skip Sempé.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
1622, Richelieu est bien cardinal. Il lui faut pas mal de temps encore pour s'imposer véritablement. Louis XIII est un homme suspicieux, mais qui a quand même distingué dans son ministre des qualités tout à fait extraordinaires. Il veut simplement être certain qu'on ne le manipulera pas, le roi. Le crédit de Richelieu va être un crédit graduel, mais qui va finir par atteindre des sommets absolument inédits dans l'histoire. C'est un homme attentif, Richelieu, qui ne s'estime jamais vainqueur. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a parfois des oppositions, il y a parfois des désaccords entre le roi et lui. Et puis, c'est vrai qu'il a cette capacité à lutter de manière opiniâtre pour faire valoir ses idées. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il arrivera toujours à aller plus loin, à dépasser ses désaccords, à faire semblant d'obéir, si je puis dire, pour faire avancer sa cause. Et sa cause, c'est celle de la France, vous l'aurez compris, essentiellement. En tout cas, pour être plus juste, c'est celle de l'État. En 1628, La Rochelle, tenue par les Huguenots insurgés, que l'anglais Buckingham n'a pas réussi à secourir, La Rochelle est reprise après le terrible siège que j'ai eu l'occasion ici même de vous raconter. L'année suivante, c'est l'édit d'Alès qui redéfinit tout un équilibre avec la minorité religieuse. C'est la fin du parti protestant, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Richelieu, de par sa position toujours plus formidable auprès du roi, devient la cible à abattre. C'est vrai que sa puissance déplaît, et alors on ne comptera pas tous ceux qui vont former contre lui des complots, y compris dans l'entourage même du roi, puisque son propre frère, Gaston d'Orléans, l'enfant chéri de Marie de Médicis, et même la reine en personne, et même aussi l'épouse de Louis XIII, Anne d'Autriche, tous ces gens-là vont tremper dans des affaires et des manigances plus ou moins nettes. Il n'empêche que Richelieu vient toujours à bout de tout, il arrive toujours à faire surnager la couronne et Louis XIII en personne. Louis XIII, qui tout en étant souvent assez revêche et en se montrant difficile dans les rapports qu'il entretient avec Richelieu, Louis XIII qui n'en choisit pas moins toujours la raison d'État. Je pense que la raison d'État, c'est le point commun entre Richelieu et son maître. Richelieu, après avoir failli tomber à plusieurs reprises, s'en sort toujours. Et c'est notamment le moment extraordinaire de cette journée des dupes en 1630, où tout le monde pensait qu'il allait être la victime d'une sorte de gigantesque conjuration de cour. Et en fait, non seulement il s'en sort, mais il renforce encore son pouvoir.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le duo formé maintenant par Louis XIII et Richelieu va pouvoir poursuivre sur sa lancée. On les voit orienter leur boussole politique vers une sorte d'obsession, vers cette raison d'État qui doit établir le calme religieux et l'ordre public à l'intérieur et qui doit établir à l'extérieur la suprématie de la France, notamment face aux défis que les Habsbourg ne cessent de lui poser. La personnalité du roi s'accommode assez mal avec le panache que voudrait Richelieu. À sa cour, il n'est pas ce qu'on pourrait appeler une présence vive et scintillante. Le roi a des plaisirs, mais qui ressemblent souvent à des refuges. Il y a la chasse, bien sûr, il y a ses fameux amis distingués, mais aussi au fil des années, des relations avec les dames de la cour, dont Louise Angélique de Lafayette. Mais relations tout à fait chastes, je m'empresse de le dire. Pour l'essentiel, il y a surtout ce fond de taciturnité qu'on connaissait à l'adolescent et qui, non seulement n'a pas disparu, mais a eu plutôt tendance à se renforcer. Il faut vous dire que Louis XIII a subi tant de contrariétés, notamment dans son mariage avec Anne d'Autriche. Il y a eu tellement de malentendus, il y a eu des fausses couches de la part de la reine. Le couple n'arrive pas à se comprendre. Et puis, il va y avoir en 1637, cette affaire terrible, la reine éclaboussée par une inconséquence. De plus, le chancelier Séguier, Richelieu, puis Louis XIII vont confronter la reine elle-même à un certain nombre de lettres qu'elle a envoyées par une voie détournée à un certain nombre d'ennemis du royaume. Vous imaginez, des ennemis en armes. De ces incompréhensions découle une blessure intime pour Louis XIII, mais qui est aussi une blessure politique d'une certaine manière. Il y aura quand même une réunion des époux, réunion tardive, puisque le 5 septembre 1638, Anne d'Autriche, à presque 37 ans, donnera enfin naissance à un petit Louis Dieudonné. Deux ans plus tard, un autre fils, Philippe, verra le jour. Et l'intenable Gaston d'Orléans aura donc attendu pour rien. Il aura manigancé pour rien. Les 5 ans qui restent à vivre à Louis XIII seront sombres, seront agités, mais il n'empêche, comme le remarque très justement Pierre Chevalier, comme il l'écrira, il fut, ce Louis XIII, le dernier roi de France à avoir été pleuré par son peuple.
Vous écoutez Radio Classique.
Et vous savez quel était le surnom dans l'histoire de Louis XIII? C'est Louis le Juste. Eh bien, voici Christian le Juste maintenant.
Bonjour gentil. Christian. Ah, je le prends bien.
C'est bien le Juste. Hein.
Ah oui, ça me satisfait. Louis XIII, pour moi, c'est la référence aux mousquetaires, à tous ces films de cap et d'épée, Georges Marchal, Jean Marais, Bourville, en plancher, dans les trois mousquetaires de Dumas. Formidable. Et cet après-midi, alors, vous allez nous parler de quelque chose de très intéressant, qui est une intrigue historique, les visages d'Henri IV.
Oui, parce que on peut dire d'Henri IV qu'il a présenté à la face de l'histoire un certain nombre de visages différents.
Le vert galant, comme on l'appelait. À tout à l'heure, 14h, et bien sûr, à demain matin, avec, on peut le dire, Louis XIV.
Ah oui, là, c'est sérieux, là, attention.
Mais tout est sérieux, oui, dans la semaine. Merci Franck, bonne journée.